Les frères Karamazov, première partie, fin du livre 3. Chapitre 9. Les sensuels. Grigori et Smerdiakov accouraient à la suite de Dmitri. Ils avaient lutté avec lui dans le vestibule pour l'empêcher d'entrer, conformément aux instructions données par Fyodor Pavlovitch quelques jours auparavant. Profitant de ce que Dmitri s'était arrêté une minute pour s'orienter, Grigori fit le tour de la table, ferma les deux battants de la porte du fond qui conduisait aux chambres intérieures, et se tint devant cette porte, les bras étendus en croix, prêt à en défendre l'entrée jusqu'à son dernier souffle. Ce que voyant, Dmitri rugit plutôt qu'il ne cria, et se précipita sur Grigori. « Ainsi, elle est là! C'est là qu'on l'a cachée! Arrière, gredin !» Il voulut écarter Grigori, mais celui-ci le repoussa. Fou de rage, Dmitri leva la main et frappa Grigori de toute sa force. Le vieillard s'affaissa comme fauché, et Dmitri, enjambant son corps, força la porte. Smerdiakov, pâle et tremblant, était resté à l'autre bout de la table, serré contre Fyodor Pavlovitch. « Elle est ici !» cria Dmitri. « Je viens de la voir se diriger vers la maison, mais je n'ai pu la rejoindre. Où est-elle? Où est-elle ?» Ce cri « Elle est ici !» fit une impression inexplicable sur Fyodor Pavlovitch. Toute sa frayeur disparut. « Arrêtez-le ! Arrêtez-le !» glapit-il en se précipitant à la suite de Dmitri. Cependant, Grigori s'était relevé, mais restait encore abasourdi. Ivan et Alyosha coururent pour rattraper leur père. On entendit dans la chambre voisine le fracas d'un objet brisé en tombant. C'était un grand vase, de peu de valeur, placé sur un piédestal en marbre que Dmitri avait heurté en passant. « Au secours !» hurla le vieux. Ivan et Alyosha le rejoignirent et le ramenèrent de force dans la salle à manger. « Pourquoi le poursuivez-vous? Il serait capable de vous tuer !» s'écria Ivan avec colère. « Ivan, Alyosha, Grushenka est ici, il dit qu'il l'a vu entrer !» Fyodor Pavlovitch perdait l'haleine. Pour cette fois, il n'attendait pas Grushenka, et la nouvelle imprévue de sa présence troublait sa raison. Il était tout tremblant, il avait comme perdu l'esprit. « Vous avez vu vous-même qu'elle n'est pas venue !» cria Ivan. « Mais peut-être par l'autre entrée ?» « Elle est fermée, cette entrée, et vous en avez la clé !» Dmitri reparut dans la salle à manger. Naturellement, il avait trouvé lui aussi l'autre entrée fermée, et c'était bien Fyodor Pavlovitch qui en avait la clé dans sa poche. Toutes les fenêtres étaient également closes. Grushenka n'avait donc pu ni entrer ni sortir par aucune issue. « Arrêtez-le !» hurla Fyodor Pavlovitch dès qu'il aperçut Dmitri. « Il a volé de l'argent dans ma chambre à coucher !» En s'arrachant des bras d'Ivan, il s'élança de nouveau sur Dmitri. Celui-ci leva les mains, saisit le vieillard par les deux seules touffes de cheveux qui lui restaient aux tempes, le fit pirouetter, le jeta violemment sur le plancher et lui donna encore deux ou trois coups de talon au visage. Le vieillard poussa un gémissement aigu. Ivan, quoique plus faible que Dmitri, le saisit par le bras et l'éloigna de leur père. Alyosha, l'aidant de toutes ses forces, avait empoigné son frère par devant. « Tu l'as tué, démon !» cria Ivan. « Il a ce qu'il mérite !» s'exclama Dmitri haletant. « Si je ne l'ai pas tué, je viendrai l'achever. Vous ne le sauverez pas !»« Dmitri, hors d'ici tout de suite !» cria impérieusement Alyosha. « Alexei, je n'ai confiance qu'en toi. Dis-moi si Grushenka était ici tout à l'heure ou non. Je l'ai vue moi-même longer la haie et disparaître dans cette direction. Je l'ai appelée, elle s'est enfuie. »« Je te jure qu'elle n'était pas ici et que personne ne l'attendait. »« Mais je l'ai vue, donc elle... Je saurai tout à l'heure où elle est. Au revoir, Alexei. » Pas un mot à Ésope au sujet de l'argent, mais va tout de suite chez Catherine Ivanovna et dis-lui. » Et il m'a ordonné de vous saluer, précisément de vous saluer et resaluer. Décris-lui la scène. » Sur ces entrefaites, Ivan et Grigori avaient relevé et installé le vieillard sur un fauteuil. Son visage était ensanglanté, mais il avait sa connaissance. Il lui semblait toujours que Grushenka se trouvait quelque part dans la maison. Dmitri lui jeta un regard de haine en s'en allant. « Je ne me repens pas d'avoir versé ton sang !» s'exclama-t-il. « Prends garde, vieillard, surveille ton rêve, car moi aussi j'en ai un. Je te maudis et te renie pour toujours !» Il s'élança hors de la chambre. « Elle est ici, elle est sûrement ici !» râla le vieux d'une voix à peine perceptible en faisant signe à Smerdiakov. « Non, elle n'est pas ici, vieillard insensé !» cria rageusement Ivan. « Bon, le voilà qui s'évanouit. De l'eau, une serviette. Smerdiakov, vite !» Smerdiakov courut chercher de l'eau. Le vieux, une fois déshabillé, fut transporté dans la chambre à coucher et mis au lit. On lui entoura la tête d'une serviette mouillée. Affaibli par le cognac, les émotions violentes et les coups, il ferma les yeux et s'assoupit dès qu'il eut la tête sur l'oreiller. Ivan et Alyosha retournèrent au salon. Smerdiakov emporta les débris du vase brisé. Grigori se tenait près de la table, morne, la tête baissée. « Tu devrais aussi te mouiller la tête et te coucher, » lui dit Alyosha. « Mon frère t'a frappé violemment à la tête. »«
Il a osé, » proféra Grigori d'un air morne.
« Il a osé aussi contre son père, » fit observer Ivan, la bouche contractée. « Je l'ai lavé tout petit, et il a levé la main sur moi, » répéta Grigori. « Si je ne l'avais pas retenu, il t'aurait tué. Il n'en faut pas beaucoup pour Isop, » murmura Ivan à Alyosha. « Que Dieu le préserve !» s'exclama Alyosha. « Pourquoi ?» continua Ivan sur le même ton, le visage haineusement contracté. « La destinée des reptiles est de se dévorer entre eux !» Alyosha frissonna. « Bien entendu, je ne laisserai pas s'accomplir un meurtre. Reste ici, Alyosha. Je vais faire les 100 pas dans la cour, je commence à avoir mal à la tête. » Alyosha passa dans la chambre à coucher et demeura 1 heure au chevet de son père, derrière le paravent. Soudain, le vieillard ouvrit les yeux et le regarda longtemps en silence, s'efforçant de rassembler ses souvenirs. Une agitation extraordinaire se peignit sur son visage.
« Alyosha !» chuchota-t-il avec appréhension. « Où est Ivan ?»«
Dans la cour, il a mal à la tête. Il nous garde. »
« Donne-moi le petit miroir qui est là-bas. »
Alyosha lui tendit un petit miroir ovale qui se trouvait sur la commode. Le vieillard s'y regarda. Le nez avait enflé et sur le front, au-dessus du sourcil gauche, s'étalait une ecchymose pourpre.
« Que dit Ivan, Alyosha, mon cher, mon unique fils? J'ai peur d'Ivan. Je le crains plus que l'autre. Il n'y a que toi dont je n'ai pas peur. »
« Ne craignez pas Ivan non plus. Il se fâche, mais il vous défendra. »«
Alyosha, et l'autre? Il a couru chez Grushenka? Mon ange, dis-moi la vérité. Grushenka était-elle ici ?»«
Personne ne l'a vue. C'est une illusion. Elle n'était pas là. »«
Sais-tu que Dmitri veut l'épouser ?»«
Elle ne voudra pas de lui. »«
Non, non, elle ne voudra pas de lui !»
s'écria le vieillard frémissant de joie, comme si on ne pouvait rien lui dire de plus agréable. Dans son enthousiasme, il saisit la main d'Alyosha et la serra contre son cœur. Des larmes même brillèrent dans ses yeux.
« Prends cette image de la Vierge dont j'ai parlé tantôt, » reprit-il. « Emporte-la avec toi, et je te permets de retourner au monastère. »
« Je plaisantais, ne te fâche pas.
La tête me fait mal, Alyosha. Tranquillise-moi. « Sois mon bon ange, dis-moi la vérité. »«
Toujours la même idée ?» fit tristement Alyosha.
« Non, non, je te crois, mais va chez Grushenka ou tâche de la voir. Demande-lui au plus tôt. Pénètre son secret. Qui elle préfère, lui ou moi? Le peux-tu ?»«
Si je la vois, je lui demanderai, » murmura Alyosha confus.
« Bon. » « Elle ne te le dira pas, » interrompit le vieillard. « C'est une enfant terrible. Elle commencera par t'embrasser en disant que c'est toi qu'elle veut. Elle est fourbe et effrontée. Non, tu ne peux pas aller chez elle.
En effet, mon père, ce ne serait pas convenable.
Où t'envoyait-il? Il a crié « Va !» en se sauvant.
Chez Catherine Ivanovna.
Pour lui demander de l'argent?
Non, pas pour cela.
Il n'a pas le sou. Écoute, Alyosha, je réfléchirai pendant la nuit. Va-t'en, tu la rencontreras peut-être. Viens me voir demain matin sans faute. J'ai quelque chose à te dire. Viendras-tu?
Oui.
Tu auras l'air de passer prendre de mes nouvelles. Ne dis à personne que je t'ai prié de venir. Pas un mot à Ivan.
Entendu.
Adieu, mon ange. Tu as pris ma défense tout à l'heure. Je ne l'oublierai jamais.
Je te dirai un mot demain.
Mais cela demande réflexion.
Comment vous sentez-vous maintenant?
Demain, je serai sur pied, tout à fait rétabli, en parfaite santé.
Dans la cour, Alyosha trouva Ivan assis sur un banc près de la porte cochère. Il notait quelque chose au crayon dans son carnet. Alyosha l'informa que le vieillard avait repris connaissance et lui laissait passer la nuit au monastère.
« Alyosha, je serai heureux de te voir demain matin, »
dit Ivan d'un ton aimable auquel Alyosha ne s'attendait pas.
« Je serai demain chez les dames Koklakov, peut-être aussi chez Catherine Ivanovna, si je ne la trouve pas chez elle maintenant. »
« Tu y vas quand même? C'est pour la saluer et la resaluer, » dit Ivan en souriant. Alyosha se troubla.
« Je pense avoir compris les exclamations de Dmitri et un peu ce qui s'est passé. Il t'a prié d'aller la voir pour lui dire qu'il... Eh bien, en un mot, pour prendre congé. »
« Frère, comment ce cauchemar finira-t-il pour Dmitri et notre père ?» s'exclama Alyosha.
« Il est difficile de le deviner. Peut-être que cette affaire tombera à l'eau. Cette femme est un monstre. En tout cas, il faut que le vieux reste à la maison et que Dmitri n'y entre pas.
Frère, permets-moi encore une question. Se peut-il que chacun ait le droit de juger ses semblables, de décider qui est digne de vivre et qui en est indigne?
Que vient faire ici l'appréciation des mérites? Pour trancher cette question, le cœur humain ne se préoccupe guère des mérites, mais d'autres motifs bien plus naturels.
Quant au droit, qui donc n'a pas le droit de souhaiter?
Pas la mort d'autrui.
Et pourquoi pas la mort?
À quoi bon mentir à soi-même, alors que tous vivent ainsi et ne peuvent sans doute vivre autrement?
Tu penses à ce que j'ai dit tout à l'heure, que la destinée des reptiles est de se dévorer entre eux. Me crois-tu capable, comme Dmitri, de verser le sang d'Ésope, de le tuer, enfin?
Que dis-tu, Ivan? Jamais cette idée ne m'est venue, et je ne crois pas que Dmitri...
Merci, dit Ivan en souriant. Sache que je le défendrai toujours. Mais dans ce cas particulier, je laisse le champ libre à mes désirs. À demain. Ne me juge pas. Ne me tiens pas pour un scélérat, ajouta-t-il. Ils se serrèrent les mains plus cordialement qu'ils n'avaient jamais fait. Alyosha comprit que son frère se rapprochait de lui avec une intention secrète. Chapitre 10. Les deux ensemble. Alyosha sortit de chez son père plus abattu qu'à son arrivée. Ses idées étaient fragmentaires, confuses. Lui-même se rendait compte qu'il craignait de les rassembler, de tirer une conclusion générale des contradictions douloureuses dont cette journée était faite. Il éprouvait un sentiment voisin du désespoir, ce qui ne lui était jamais arrivé. Une question dominait les autres, fatale et insoluble. Qu'adviendrait-il de son père et de Dmitri en présence de cette femme redoutable? Il les avait vus aux prises. Le seul vraiment malheureux, c'était son frère Dmitri. La fatalité le guettait. D'autres se trouvaient mêlés à tout cela, et peut-être davantage que ne le croyait Alyosha auparavant. Il y avait là une sorte d'énigme. Ivan lui avait fait des avances, attendues depuis longtemps, et maintenant il en éprouvait une appréhension. Autre bizarrerie,
Alors que tantôt il se rendait chez Catherine Ivanovna, dans un trouble extraordinaire, il n'en ressentait à présent aucun. Il se hâtait même, comme s'il attendait d'elle une indication. Pourtant, la commission était encore plus pénible à faire. La question des 3 000 roubles était réglée, et Dmitri, se sentant déshonoré définitivement, tomberait de plus en plus bas. En outre, Alyosha devait narrer à Catherine Ivanovna la scène qui venait de se dérouler chez son père. Il était 7 heures, et la nuit tombait lorsque Alyosha arriva chez Catherine Ivanovna, qui habitait une confortable maison dans la grand-rue. Il savait qu'elle vivait avec 2 tantes. L'une, la tante de sa sœur Agathe, était cette personne silencieuse qui avait pris soin d'elle après sa sortie de pension. L'autre était une dame de Moscou, fort digne, mais sans fortune. Toutes deux se soumettaient en tout à Catherine Ivanovna et ne demeuraient auprès d'elle que pour le décorum. Catherine Ivanovna ne dépendait que de sa bienfaitrice, la générale, que sa santé retenait à Moscou et à qui elle était dans l'obligation d'écrire 2 fois par semaine des lettres très détaillées. Lorsqu'Alyosha, dans le vestibule, se fit annoncer par la femme de chambre qui lui avait ouvert, il lui parut évident qu'on connaissait déjà au salon son arrivée. Peut-être l'avait-on aperçu de la fenêtre. Toujours est-il qu'il entendit du bruit, des pas précipités résonnèrent avec un froufrou de robe, 2 ou 3 femmes avaient dû s'échapper. Alyosha trouva étrange que son arrivée produisit une telle agitation. On le fit entrer aussitôt au salon, une grande pièce meublée avec élégance qui n'avait rien de provincial. Des canapés et des chaises longues, des tables et des guéridons, des tableaux au mur, des vases et des lampes, beaucoup de fleurs, jusqu'à un aquarium près de la fenêtre. Le crépuscule assombrissait la chambre. Alyosha aperçut sur un canapé une mantille de soie abandonnée, et sur la table en face, 2 tasses où il restait du chocolat, des biscuits, une coupe de cristal avec des raisins secs, une autre avec des bonbons. En voyant cette collation, Alyosha devina qu'il y avait des invités et fronça les sourcils. Mais aussitôt la portière se souleva et Catherine Ivanovna entra d'un pas rapide en lui tendant les 2 mains avec un joyeux sourire. En même temps, une servante apporta et posa sur la table 2 bougies allumées. « Dieu soit loué, vous voilà enfin. Toute la journée, j'ai prié Dieu pour que vous veniez. Asseyez-vous. » La beauté de Catherine Ivanovna avait déjà frappé Alyosha 3 semaines auparavant, quand Dmitri l'avait conduit chez elle pour le présenter, car elle désirait beaucoup faire sa connaissance. Il n'avait guère causé lors de cette entrevue. Croyant Alyosha fort gêné, Catherine Ivanovna voulut le mettre à l'aise et conversa tout le temps avec Dmitri. Alyosha avait gardé le silence, mais observait bien des choses. Le maintien noble, l'aisance fière, l'assurance de la hautaine jeune fille le frappèrent. Ses grands yeux noirs brillants lui parurent en parfaite harmonie avec la pâleur mate de son visage ovale. Mais ses yeux, ses lèvres tremblantes, si capables qu'elles fussent d'exciter l'amour de son frère, ne pourraient peut-être pas le retenir longtemps. Il s'en ouvrit presque à Dmitri, lorsque celui-ci, après la visite, insista, le suppliant de ne pas cacher l'impression que lui avait produite sa fiancée. « Tu seras heureux avec elle, mais peut-être pas d'un bonheur calme. » « Frère, ces femmes demeurent pareilles à elles-mêmes. Elles ne se résignent pas devant la destinée. Ainsi, tu penses que je ne l'aimerai pas toujours ?»« Non, tu l'aimeras toujours, sans doute, mais tu ne seras peut-être pas toujours heureux avec elle. » Alyosha exprima cette opinion en rougissant, dépité d'avoir, pour céder aux prières de son frère, formulé des idées aussi sottes, car aussitôt émises, son opinion lui parut à lui-même fort sotte. Et il eut honte de s'être exprimé si catégoriquement sur une femme. Sa surprise fut d'autant plus grande en sentant, au premier regard jeté maintenant sur Catherine Ivanovna, qu'il s'était peut-être trompé dans son jugement. Cette fois-ci, le visage de la jeune fille rayonnait d'une bonté ingénue, d'une sincérité ardente. De la fierté et de la hauteur qui avaient alors tant frappé Alyosha, il ne restait qu'une noble énergie, une confiance sereine en soi-même. Au premier regard, aux premières paroles, Alyosha comprit que le tragique de sa situation à l'égard de l'homme qu'elle aimait tant ne lui échappait point, et que peut-être elle savait déjà tout. Néanmoins, son visage radieux exprimait la foi en l'avenir. Alyosha se sentit coupable envers elle, vaincue et captivée tout ensemble. En outre, il remarqua, à ses premières paroles, qu'elle se trouvait dans une violente agitation, peut-être insolite chez elle, et qui confinait même à l'exaltation. « Je vous attendais, car c'est de vous seul à présent que je puis savoir toute la vérité. »«
Je suis venu, » bredouilla Alyosha. « Je... il m'a envoyé. »«
Ah ! Il vous a envoyé. Eh bien, je le pressentais. Maintenant, je sais tout. Tout !» dit Catherine Ivanovna, les yeux étincelants. « Attendez, Alexei Fyodorovitch, je vais vous dire pourquoi je désirais tant vous voir. J'en sais peut-être plus long que vous-même. Ce ne sont pas des nouvelles que je réclame de vous. Je veux connaître votre dernière impression sur Dmitri. Je veux que vous me racontiez le plus franchement, le plus grossièrement que vous pourrez. Oh, ne vous gênez pas. Ce que vous pensez de lui maintenant et de sa situation après votre entrevue d'aujourd'hui. Cela vaudra peut-être mieux qu'une explication entre nous deux, puisqu'il ne veut plus venir me voir. Avez-vous compris ce que j'attends de vous? Maintenant, pour quelle raison vous a-t-il envoyé? Parlez franchement. Ne mâchez pas les mots.
Il m'a chargé de vous saluer, de vous dire qu'il ne viendrait plus jamais et de vous saluer.
Saluer? Il a dit comme ça? C'est ainsi qu'il s'est exprimé?
Oui.
Il s'est peut-être trompé, par hasard, et n'a pas employé le mot qu'il fallait.
Non. Il a insisté précisément pour que je vous répète ce mot « saluer ». Il me l'a recommandé 3 fois.
Le sang monta au visage de Catherine Ivanovna. « Aidez-moi, Alexei Fyodorovitch, j'ai maintenant besoin de vous. Voici ma pensée. Dites-moi si j'ai tort ou raison. S'il vous avait chargé de me saluer à la légère, sans insister sur la transmission du mot, sans le souligner, tout serait fini. Mais s'il a appuyé particulièrement sur ce terme, s'il vous a enjoint de me transmettre ce salut, c'est qu'il était surexcité, hors de lui peut-être. La décision qu'il a prise l'aura effrayé lui-même. Il ne m'a pas quitté avec assurance, il a dégringolé la pente. Le soulignement de ce mot a le sens d'une bravade. « c'est cela, affirma Alyosha. J'ai la même impression que vous.
Dans ce cas, tout n'est pas perdu. Il n'est que désespéré. Je puis encore le sauver. Ne vous a-t-il pas parlé d'argent? De 3 000 roubles?
Non seulement il m'en a parlé, mais c'est peut-être ce qui l'accablait le plus. Il dit que tout lui est devenu indifférent depuis qu'il a perdu son honneur.
Répondit Alyosha, qui se sentait renaître à l'espérance en entrevoyant la possibilité de sauver son frère.
Mais savez-vous ce qui en est de cet argent? Ajouta-t-il, et il demeura court.
Je suis fixé depuis toujours. J'ai télégraphié à Moscou, où l'on n'avait rien reçu. Il n'a pas envoyé l'argent. Mais je me suis tue. J'ai appris la semaine dernière qu'il était à court. Je n'ai qu'un but en tout ceci. C'est qu'il sache à qui s'adresser et où trouver l'amitié la plus fidèle. Mais il ne veut pas croire que son plus fidèle ami, c'est moi. Il ne considère que la femme en moi. Je me suis tourmentée toute la semaine. Comment faire pour qu'il ne rougisse pas devant moi d'avoir gaspillé ces 3 000 roubles? Qu'il ait honte devant tous et vis-à-vis de lui-même, mais pas devant moi. Comment ignore-t-il jusqu'à maintenant tout ce que je puis endurer pour lui? Comment peut-il me méconnaître après tout ce qui s'est passé? Je veux le sauver pour toujours. Qu'il cesse de voir en moi sa fiancée.
Il craint pour son honneur vis-à-vis de moi, mais il n'a pas craint de s'ouvrir à vous, Alexeï Fiodorovitch. Pourquoi n'ai-je pas encore mérité sa confiance ?»
Des larmes lui vinrent aux yeux, tandis qu'elle prononçait ces derniers mots.
« Je dois vous dire, » reprit Alyosha d'une voix tremblante, « qu'il vient d'avoir une scène terrible avec mon père. »
Et il raconta tout. Comment Dmitri l'avait envoyé demander de l'argent, puis avait fait irruption dans la maison, battu Fiodor Pavlovitch, et là-dessus, recommandé avec insistance à Alyosha d'aller la saluer.
« Il est allé chez cette femme, »
ajouta tout bas Alyosha.
« Vous pensez que je ne supporterai pas sa liaison avec cette femme ? Il le pense aussi, mais il ne l'épousera pas, »
déclara-t-elle avec un rire nerveux.
« Un Karamazov peut-il brûler d'une ardeur éternelle ? C'est un emballement, ce n'est pas de l'amour. Il ne l'épousera pas, car elle ne voudra pas de lui, »
dit-elle avec le même rire étrange.
« Il l'épousera peut-être, »
dit tristement Alyosha, les yeux baissés.
« Il ne l'épousera pas, vous dis-je. Cette jeune fille est un ange. Le savez-vous ? Le savez-vous ? »
s'exclama Catherine Ivanovna avec une chaleur extraordinaire.
« C'est la plus fantastique des créatures. Elle est séduisante, assurément, mais elle a un caractère noble et bon. Pourquoi me regardez-vous ainsi, Alexeï Fiodorovitch ? Mes paroles vous étonnent ? Vous ne me croyez pas ?
Agrafena Alexandrovna, mon ange ! Cria-t-elle soudain, les yeux tournés vers la pièce voisine.
« Venez ici ! Ce gentil garçon est au courant de toutes nos affaires. Montrez-vous donc !»«
Je n'attendais que votre appel !» fit une voix douce et même doucereuse.
La portière se souleva et Grushenka en personne, rieuse, joyeuse, apparut. Alyosha éprouva une commotion. Les yeux fixés sur cette apparition, il ne pouvait s'en détacher.
« La voilà donc !» se disait-il. « Cette femme redoutable, ce monstre, comme Ivan l'a appelé il y a une demi-heure. »
Pourtant, il avait devant lui l'être le plus ordinaire, le plus simple à première vue. Une femme charmante et bonne, jolie, certes, mais ressemblant à toutes les jolies femmes ordinaires. À vrai dire, elle était même belle, fort belle, une beauté russe, celle qui suscite tant de passions. La taille assez élevée, sans égaler pourtant Catherine Ivanovna, qui était très grande, forte, avec des mouvements doux et silencieux, comme alanguie dans une douceur en accord avec sa voix. Elle s'avança, non pas comme Catherine Ivanovna, d'un pas ferme et assuré, mais sans bruit. On ne l'entendait pas marcher. Elle s'enfonça dans un fauteuil avec un bruissement doux de son élégante robe en soie noire, recouvrit frileusement d'un châle de laine son cou blanc comme neige et ses larges épaules. Son visage indiquait juste son âge, 22 ans. Sa peau était très blanche, avec un teint à reflets rose pâle, l'ovale du visage un peu large, la mâchoire inférieure un peu saillante, la lèvre supérieure était mince, celle de dessous qui avançait deux fois plus forte et comme enflée. Une magnifique chevelure châtain très abondante, des sourcils sombres, d'admirables yeux gris d'azur aux longs cils. Le plus indifférent, le plus distrait des hommes, égaré dans la foule à la promenade, n'eût pas manqué de s'arrêter devant ce visage et de se le rappeler longtemps. Ce qui frappa le plus Alyosha, ce fut son expression enfantine et ingénue. Elle avait un regard et des joies d'enfant. Elle s'était approchée de la table vraiment réjouie, comme si elle attendait quelque chose, curieuse et impatiente. Son regard égayait l'âme. Alyosha le sentait. Il y avait encore en elle un je ne sais quoi dont il n'aurait pu ou su rendre compte, mais qu'il sentait peut-être inconsciemment. Cette mollesse des mouvements, cette légèreté féline de son corps, pourtant puissant et gras. Son châle dessinait des épaules pleines, une ferme poitrine de toute jeune femme.
Ce corps promettait peut-être les formes de la Vénus de Milo, mais dans des proportions que l'on devinait quelque peu outrées. En examinant Krushenka, des connaisseurs de la beauté russe auraient prédit avec certitude qu'à l'approche de la trentaine, cette beauté, si fraîche encore, perdrait son harmonie. Le visage s'empâtrait, des rides se formeraient rapidement sur le front et autour des yeux, le teint se flétrirait, s'empourprerait peut-être. Bref, c'était la beauté du diable, beauté éphémère, si fréquente chez la femme russe. Alyosha, bien entendu, ne pensait pas à ces choses, mais, quoique sous le charme, il se demandait, avec malaise et comme à regret, pourquoi traîne-t-elle ainsi les mots et ne peut-elle parler naturellement? Grushenka trouvait sans doute de la beauté dans ce grasseillement et ses intonations chantantes. Ce n'était qu'une habitude de mauvais ton, indice d'une éducation inférieure, d'une fausse notion des convenances. Néanmoins, ce parler affecté semblait à Alyosha presque incompatible avec cette expression ingénue et radieuse, ce rayonnement des yeux, riant d'une joie de bébé. Catherine Ivanovna la fit asseoir en face d'Alyosha et baisa à plusieurs reprises les lèvres souriantes de cette femme dont elle semblait s'être amourachée. « C'est la première fois que nous nous voyons, Alexei Fiodorovitch, » dit-elle ravie. « Je voulais la connaître, la voir, aller chez elle, mais elle est venue elle-même à mon premier appel. J'étais sûre que nous arrangerions tout. Mon cœur le pressentait. On m'avait prié de renoncer à cette démarche, mais j'en prévoyais l'issue, et je ne me suis pas trompée. Grushenka m'a expliqué toutes ses intentions. Elle est venue comme un bon ange, m'a porté la paix et la joie. « Vous ne m'avez pas dédaigné, chère mademoiselle, » dit Grushenka d'une voix traînante, avec son doux sourire. « Gardez-vous de me dire de telles paroles, charmante magicienne. Vous dédaignez. Je vais encore embrasser votre jolie lèvre. Elle a l'air enflée, et voilà qui la fera enfler encore. » « Voyez comme elle rit, Alexei Fiodorovitch. C'est une joie pour le cœur de regarder cet ange. » Alyosha rougissait et frissonnait légèrement. « Vous me choyez, chère mademoiselle, mais je ne mérite peut-être pas vos caresses. »«
Elle ne les mérite pas !»
s'exclama avec la même chaleur Catherine Ivanovna. « Sachez, Alexei Fiodorovitch, que nous sommes une tête fantasque, indépendante, mais un cœur fier, oh, très fier. « Nous sommes nobles et généreuses, Alexei Fiodorovitch, le saviez-vous ? Nous n'avons été que malheureuses, trop prêtes à nous sacrifier à un homme peut-être indigne ou léger. Nous avons aimé un officier, nous lui avons tout donné, il y a longtemps de cela, 5 ans, et il nous a oubliés, il s'est marié. Devenu veuf, il a écrit, il est en route. C'est lui seul, sachez-le, que nous aimons et que nous avons toujours aimé. Il arrive, et de nouveau Grushenka sera heureuse, après avoir souffert pendant 5 ans. Que peut-on lui reprocher? Qui peut se vanter de ses bonnes grâces? Ce vieux marchand impotent, mais c'était plutôt un père, un ami, un protecteur. Il nous a trouvés désespérés, tourmentés, abandonnés, car elle voulait se noyer. Ce vieillard l'a sauvée. Il l'a sauvée. Vous me défendez par trop chaleureusement, chère mademoiselle. Vous allez un peu loin, traîna de nouveau Grushenka. Je vous défends. Est-ce à moi de vous défendre et avez-vous besoin de l'être? Grushenka, mon ange, donnez-moi votre main. Regardez cette petite main potelée, cette délicieuse main, Alexei Fiodorovitch. La voyez-vous? C'est elle qui m'a apporté le bonheur, qui m'a ressuscité. Je vais la baiser des deux côtés. Et voilà, et voilà. » Elle embrassa 3 fois, comme transportée, la main vraiment charmante, peut-être trop potelée, de Grushenka. Celle-ci se laissait faire avec un rire nerveux et sonore. Tout en observant la chère demoiselle.
Peut-être s'exalte-t-elle trop, pensa Alyosha.
Il rougit. Son cœur n'était pas tranquille.
Vous voulez me faire rougir, chère mademoiselle, en baisant ma main devant Alexei Fiodorovitch.
Moi? Vous faire rougir? Proféra Catherine Ivanovna un peu étonnée.
Ah, ma chère, que vous me comprenez mal.
Mais peut-être ne me comprenez-vous pas non plus, chère mademoiselle.
Je suis pire que je ne vous parais.
J'ai mauvais cœur, je suis capricieuse.
C'est uniquement pour me moquer du pauvre Dmitri Fiodorovitch que j'ai fait sa conquête.
Mais vous allez maintenant le sauver, vous me l'avez promis. Vous lui ferez comprendre. Vous lui révélerez que depuis longtemps vous en aimez un autre, prêt à vous épouser.
Mais non, je ne vous ai rien promis de pareil. C'est vous qui avez dit tout cela, et pas moi.
Je vous ai donc mal comprise, murmura Catherine Ivanovna, qui pâlit légèrement.
Vous m'avez promis.
Ah non, angélique demoiselle, je ne vous ai rien promis,
interrompit Grushenka avec la même expression gaie, paisible, innocente.
Voyez, digne mademoiselle, comme je suis mauvaise et volontaire. Ce qui me plaît, je le fais.
Tout à l'heure, je vous ai peut-être fait une promesse, et maintenant je me dis, si Mitya allait me plaire de nouveau, car une fois déjà il m'a plu presque une heure, peut-être vais-je aller lui dire de demeurer chez moi à partir d'aujourd'hui. Voyez comme je suis inconstante.
Tout à l'heure, vous parliez autrement, murmura Catherine Ivanovna.
Oui, mais j'ai le cœur tendre. Je suis sotte. Rien qu'à penser à tout ce qu'il a enduré pour moi, si, de retour chez moi, j'ai pitié de lui, qu'arrivera-t-il?
Je ne m'attendais pas.
Oh, mademoiselle, que vous êtes bonne et noble à côté de moi, et peut-être, maintenant, allez-vous cesser de m'aimer en voyant mon caractère?
Demanda-t-elle tendrement, et elle prit avec respect la main de Catherine Ivanovna.
Je vais baiser votre main, chère mademoiselle, comme vous vous avez fait de la mienne. Vous m'avez donné 3 baisers, je vous en devrai bien 300 pour être quitte. Il en sera ainsi, et après, à la grâce de Dieu. Peut-être serai-je votre esclave, et voudrais-je vous complaire en tout. Qu'il en soit ce que Dieu voudra, sans aucune convention ni promesse. Donnez-moi votre main, votre jolie main, chère mademoiselle, belle entre toutes.
Elle porta doucement cette main à ses lèvres, dans l'étrange dessein de s'acquitter des baisers reçus. Catherine Ivanovna ne retira pas sa main. Elle avait écouté avec un timide espoir la dernière promesse de Grushenka, si étrangement exprimée fut-elle, de lui complaire aveuglément. Elle la regardait avec anxiété dans les yeux. Elle y voyait la même expression ingénue et confiante, la même gaieté sereine.
« Elle est peut-être trop naïve, » se dit Catherine Ivanovna dans une lueur d'espoir.
Cependant, Grushenka, charmée de cette jolie petite main, la portait lentement à ses lèvres. Elle y touchait presque, lorsqu'elle la retint pour réfléchir.
« Savez-vous, mon ange, »
traîna-t-elle de sa voix la plus doucereuse,
« tout compte fait, je ne vous baiserai pas la main. »
Et elle eut un petit rire gai.
« Comme vous voudrez. »«
Qu'avez-vous ? »
tressaillit Catherine Ivanovna.
« Souvenez-vous de ceci. Vous avez baisé ma main, mais moi, je n'ai pas baisé la vôtre. »
Une lueur brilla dans ses yeux. Elle fixait obstinément Catherine Ivanovna.
« Insolente !»
proféra celle-ci, qui commençait à comprendre. Elle se leva vivement, en proie à la colère.
Sans se hâter, Grushenka en fit autant. « Je vais raconter à Mitya que vous m'avez baisé la main, mais que je n'ai pas voulu baiser la vôtre. Cela le fera bien rire. »«
Hors d'ici, coquine !»
Ah, quelle honte ! Une demoiselle comme vous ne devrait pas employer de pareils mots.
« Hors d'ici, fille vendue !» hurla Catherine Ivanovna. Tout son visage convulsé tremblait.
« Vendue, soit. Vous-même, ma belle, vous alliez le soir chercher fortune chez des jeunes gens et trafiquer de vos charmes. Je sais tout. »
Catherine Ivanovna poussa un cri, voulut se jeter sur elle, mais Alyosha la retint de toutes ses forces.
« Ne bougez pas, ne lui répondez rien, elle partira d'elle-même. »
Les deux parents de Catherine Ivanovna et la femme de chambre accoururent à son cri. Elles se précipitèrent vers elle.
« Eh bien, je m'en vais, » déclara Grushenka en prenant sa mantille sur le divan. « Alyosha, mon chéri, accompagne-moi. »«
Allez-vous-en plus vite, » implora Alyosha les mains jointes.
« Alyosha, chéri, accompagne-moi. En route, je te dirai quelque chose qui te fera plaisir. C'est pour toi, Alyosha, que j'ai joué cette scène. Viens, mon cher, tu ne le regretteras pas. »
Alyosha se détourna en se tordant les mains. Grushenka s'enfuit dans un rire sonore. Catherine Ivanovna eut une attaque de nerfs. Elle sanglotait. Des spasmes l'étouffaient. On s'empressait autour d'elle.
« Je vous avais prévenu, » lui dit l'aînée des tantes. « Vous êtes trop vive. Peut-on risquer pareille démarche? Vous ne connaissez pas ces créatures, et on dit de celle-ci que c'est la pire de toutes. Vous n'en faites qu'à votre tête. »«
C'est une tigresse !» vociféra Catherine Ivanovna. « Pourquoi m'avez-vous retenue, Alexei Fyodorovitch? Je l'aurais battue, battue !» Elle était incapable de se contenir devant Alexei. Peut-être ne le voulait-elle pas. Elle mériterait d'être fouettée en public, de la main du bourreau. Alexei se rapprocha de la porte.
« Oh, mon Dieu !» s'écria Catherine Ivanovna en joignant les mains. « Mais lui, il a pu être si déloyal, si inhumain, car c'est lui qui a raconté à cette créature ce qui s'est passé en ce jour fatal et a jamais maudit. Vous alliez trafiquer de vos charmes, ma belle !»
« Elle sait tout. Votre frère est un gredin, Alexei Fyodorovitch. » Alyosha voulut dire quelque chose, mais il ne trouva pas un mot. Son cœur se serrait à lui faire mal.
« Allez-vous-en, Alexei Fyodorovitch. J'ai honte. C'est affreux. Demain, je vous en prie à genoux, venez demain. Ne me jugez pas. Pardonnez-moi. Je ne sais pas de quoi je suis capable. »
Alyosha sortit en chancelant. Il aurait voulu pleurer comme elle. Soudain, la femme de chambre le rattrapa. « Mademoiselle a oublié de vous remettre cette lettre de Madame Koklakov. Elle l'avait depuis le dîner. » Alyosha prit la petite enveloppe rose et la glissa presque inconsciemment dans sa poche. Chapitre 11. Encore une réputation perdue. De la ville au monastère, il n'y avait guère plus d'une verste. Alyosha marchait rapidement sur la route, déserte à 7 heures. Il faisait presque nuit, et il était difficile, à 30 pas, de distinguer les objets. À mi-chemin, au centre d'un carrefour, s'élevait une silhouette. À peine Alyosha était-il arrivé à cet endroit, que la silhouette se détacha de l'arbre et se jeta sur lui en criant « La bourse ou la vie !»«
Comment ? C'est toi, Mitya ?»
s'exclama Alyosha fortement ému.
« Ah ah ! Tu ne t'y attendais pas ? Je me demandais où t'attendre. Près de sa maison ? Il y a 3 chemins qui partent de là, et je pouvais te manquer. J'ai eu l'idée enfin d'attendre ici, car tu devais nécessairement y passer. Il n'y a pas d'autre route pour aller au monastère. Eh bien, dis-moi la vérité, écrase-moi comme un cafard.
Qu'as-tu donc ?
Ce n'est rien, frère. C'est la peur. Ah, Dmitri, tantôt, ce sang de notre père. »
Alyosha se mit à pleurer. Il en avait envie depuis longtemps. Il lui semblait que quelque chose se déchirait en lui.
« Tu l'as presque tué. Tu l'as maudit. Et voilà que maintenant, tu plaisantes. »
« Ah oui, c'est indécent. Cela ne convient pas à la situation. »
Non, je disais ça...
Attends, regarde cette nuit sombre, ces nuages, ce vent qui s'est levé.
Caché sous le saule, je t'attendais, et tout à coup je me suis dit...
J'en prends Dieu à témoin.
À quoi bon souffrir encore? Pourquoi attendre? Voilà un saule. J'ai mon mouchoir et ma chemise. La corde sera bientôt tressée, avec mes bretelles par-dessus le marché. Je m'en vais débarrasser la terre de ma présence. Et soudain, je t'entends marcher. Seigneur, ce fut comme si un rayon descendait sur moi. Il y a pourtant un homme que j'aime. Le voici, ce petit homme, mon cher petit frère, que j'aime plus que tout au monde, et que j'aime uniquement. Si vive était mon affection à cette minute que je songeais à me jeter à ton cou. Mais il me vient une idée stupide. Pour le divertir, je vais lui faire peur. Et j'ai crié comme un imbécile, « La bourse ou la vie !» Pardonne ma sottise, c'est absurde, mais au fond de l'âme, je suis convenable. Eh bien, parle, que s'est-il passé là-bas? Qu'a-t-elle dit? Écrase-moi, frappe-moi, ne me ménage pas. Elle est exaspérée?
Non, ce n'est pas du tout cela, Mitya. Je les ai rencontrées toutes deux.
Qui cela, toutes deux?
Grushenka était chez Catherine Ivanovna.
Dmitri demeura stupide.
« C'est impossible ! » s'écria-t-il. « Tu divagues ! Grushenka chez elle !»
En un récit dépourvu d'art, mais non de clarté, Alyosha exposa l'essentiel de ce qui s'était passé en y joignant ses propres impressions. Son frère l'écoutait en silence, le fixant d'un air impassible. Mais Alyosha voyait clairement qu'il avait déjà tout compris, élucidé toute l'affaire. À mesure que le récit avançait, son visage se faisait presque menaçant. Il fronçait le sourcil, les dents serrées, le regard encore plus fixe, plus terrible dans son obstination. Le changement subit qui s'opéra sur ses traits courroucés n'en fut que plus inattendu. Ses lèvres crispées se détendirent, et il éclata d'un rire franc, irrésistible, qui pendant un bon moment l'empêcha de parler.
Ainsi, elle ne lui a pas baisé la main. Elle s'est sauvée sans lui baiser la main.
S'écria-t-il dans un transport maladif qu'on eût pu qualifier d'impudent s'il n'eût pas été si ingénu.
Et l'autre l'a appelée tigresse? C'en est bien une. Elle devrait monter sur l'échafaud?
Certainement. C'est mon opinion de longue date. Mais avant tout, frère, il faut recouvrer la santé. Elle est tout entière dans ce baisement de main. Cette créature infernale, cette princesse, cette reine de toutes les furies.
De quoi enthousiasmer à sa manière. Elle est partie chez elle.
À l'instant, j'y cours.
Alyosha, ne m'accuse pas. Je conviens que ce serait peu de l'étouffer.
Et Catherine Ivanovna? Dit tristement Alyosha.
Celle-là aussi, je la comprends, et mieux que jamais. C'est la découverte des quatre parties du monde.
Des cinq, veux-je dire.
Oser pareille démarche.
C'est bien la même Katineka, la pensionnaire qui n'a pas craint d'aller trouver un officier mal appris, dans le noble dessein de sauver son père, au risque de subir le pire des affronts. Toujours la fierté, la soif du danger, le défi à la destinée poussé jusqu'aux dernières limites.
Sa tante, dis-tu, voulait l'en empêcher?
C'est une femme despotique, la sœur de cette générale de Moscou. Elle faisait beaucoup d'embarras, mais son mari a été convaincu de malversation. Il a tout perdu, et sa fière épouse a dû baisser le ton.
Ainsi, elle retenait Katia, mais celle-ci ne l'a pas écoutée.
Je puis tout vaincre, tout m'est soumis. J'en sorcellerai Grushenka si je veux.
Elle le croyait, bien sûr, et elle a forcé ses talents.
À qui la faute? Tu penses que c'est à dessein qu'elle a baisé la première la main de Grushenka, par calcul et par ruse?
Non, elle s'était prise pour de bon de Grushenka.
C'est-à-dire pas d'elle, mais de son rêve, de son désir, tout simplement parce que ce rêve, ce désir, étaient les siens.
Alyosha, comment as-tu échappé à de pareilles femmes?
Tu t'es sauvé en retroussant ton froc, hein?
Frère, tu n'as pas songé, je crois,
à l'offense que tu as faite à Catherine Ivanovna en racontant à Krouchenka sa visite chez toi. Celle-ci lui a jeté à la face qu'elle allait furtivement trafiquer de ses charmes. Y a-t-il une pire injure, frère ?
L'idée que son frère se réjouissait de l'humiliation de Catherine Ivanovna tourmentait Alyosha, quoique bien à tort, évidemment.
« Ah bah !»
fit Dmitri en fronçant les sourcils et en se frappant le front. Il venait seulement d'y prendre garde, bien qu'Alyosha eût tout raconté à la fois, l'injure et le cri de Catherine Ivanovna.
« Votre frère est un gredin !»«
Oui, en effet, j'ai dû parler à Grushenka de « ce jour fatal », comme dit Katia. Vraiment, je le lui ai raconté, je me rappelle. C'était à Mokroye, pendant que les tziganes chantaient. J'étais ivre. Mais alors je sanglotais, je priais à genoux devant l'image de Katia. Krouchenka me comprenait, elle pleurait même. Pouvait-il en aller autrement? Alors elle pleurait à présent. Elle enfonce un poignard dans le cœur. Voilà bien les femmes.
Il se mit à réfléchir, la tête baissée.
Oui, je suis un véritable gredin, proféra-t-il soudain d'une voix morne. Le fait d'avoir pleuré ne change rien à l'affaire. Dis-lui que j'accepte cette appellation, si cela peut la consoler.
Eh bien, voilà assez. À quoi bon bavarder?
Ce n'est pas gai. Suivons chacun notre route. Je ne veux plus te revoir avant le dernier moment. Adieu, Alexeï.
Il serra fortement la main de son frère, et sans relever la tête, tel qu'un évadé, il se dirigea à grands pas vers la ville.
Alyosha le suivit du regard, ne pouvant croire qu'il fût parti tout à fait.
En effet, il rebroussa chemin. « Attends, Alexeï, encore un aveu, pour toi seul. Regarde-moi bien en face. Ici, vois-tu, ici, une infamie exécrable se prépare. »
En disant « ici », Dmitri se frappait la poitrine d'un air étrange, comme si l'infamie était en dépôt dans sa poitrine ou suspendue à son cou.
« Tu me connais déjà comme un gredin avéré. Mais sache-le, quoi que j'ai fait, quoi que je puisse faire à l'avenir, rien n'égale en bassesse l'infamie que je porte maintenant dans ma poitrine et que je pourrais réprimer. Mais je ne le ferai pas, sache-le. J'aime mieux la commettre. Je t'ai tout raconté tantôt, hormis cela. Je n'en avais pas le courage. Je puis encore m'arrêter, et de la sorte, recouvrer demain la moitié de mon honneur. Mais je n'y renoncerai pas. J'accomplirai mon noir dessein. Tu pourras témoigner que j'en parle à l'avance et sciemment. Perdition et ténèbres. Inutile de t'expliquer, tu l'apprendras en son temps. La fange est une furie. Adieu. Ne prie pas pour moi, je n'en suis pas digne. Et je n'ai besoin d'aucune prière. Ôte-toi de mon chemin. »
Et il s'éloigna, cette fois, définitivement. Alyosha s'en alla au monastère.
« Comment je ne le verrai plus? Qu'est-ce qu'il raconte ?»
Cela lui parut bizarre. « Il faudra que je me mette demain à sa recherche. Que veut-il dire ?»
Il contourna le monastère et alla droit à l'ermitage à travers le bois de pin. On lui ouvrit, bien qu'on ne laissât entrer personne à cette heure. Il entra dans la cellule du staré, le cœur palpitant. Pourquoi était-il parti? Pourquoi l'avait-on envoyé dans le monde? Ici, la paix, la sainteté. Là-bas, le trouble, les ténèbres dans lesquelles on s'égare.
Dans la cellule se trouvaient le novice Porphyre et un religieux, le père Paisius, qui était venu toutes les heures prendre des nouvelles du père Zosime, dont l'état empirait, comme l'apprit Alyosha avec effroi. L'entretien du soir n'avait pu avoir lieu. D'ordinaire, après l'office, la communauté, avant de se livrer au repos, se réunissait dans la cellule du staré. Chacun lui confessait tout haut ses transgressions de la journée, les rêves coupables, les tentations, même les querelles entre moines s'il y en avait eu. D'aucuns se confessaient à genoux. Le staré absolvait, apaisait, enseignait, imposait des pénitences, bénissait et congédiait. C'est contre ces confessions fraternelles que s'élevaient les adversaires du Staré. Ils y voyaient une profanation de la confession, en tant que sacrement, presque un sacrilège, bien que ce fût en réalité tout autre chose. On représentait même à l'autorité diocésaine que, loin d'atteindre leur but, ces réunions étaient une source de péché, de tentation. Beaucoup, parmi la communauté, répugnaient à aller chez le Staré et s'y rendaient malgré eux, afin de ne point passer pour fiers et révoltés en esprit. On racontait que certains moines s'entendaient entre eux à l'avance. « Je dirais que je me suis fâché contre toi ce matin. Tu le confirmeras. » Cela afin d'avoir quelque chose à dire et de se tirer d'affaire. Alyosha savait que parfois les choses se passaient ainsi. Il savait également que certains s'indignaient fort de l'usage d'après lequel les lettres même des parents, reçues par les solitaires, étaient portées d'abord au Staré pour qu'il les décachetât et les lût avant leur destinataire. Bien entendu, ces pratiques étaient censées s'accomplir librement, sincèrement, à des fins d'édification, de soumission volontaire. En fait, elles n'étaient pas exemptes d'une certaine hypocrisie. Mais les plus religieux, les plus âgés, les plus expérimentés persistaient dans leur idée, estimant que ceux qui avaient franchi l'enceinte pour faire sincèrement leur salut trouvaient dans cette obéissance et cette abdication d'eux-mêmes un profit des plus salutaires, que ceux au contraire qui murmuraient n'avaient pas la vocation et auraient mieux fait de demeurer dans le monde. « Il s'affaiblit, il somnole, » murmura le père Paisius à l'oreille d'Alyosha. « On a de la peine à le réveiller. À quoi bon d'ailleurs ? Il s'est réveillé pour 5 minutes, et a demandé qu'on transmît sa bénédiction à la communauté dont il réclame les prières. Demain matin, il a l'intention de communier de nouveau. Il s'est souvenu de toi, Alexeï. Il a demandé où tu étais. On lui a dit que tu étais parti à la ville. Ma bénédiction l'y accompagne. Sa place est là-bas et non ici. Tu es l'objet de son amour et de sa sollicitude. Comprends-tu cet honneur ? Mais pourquoi t'assigne-t-il un stage dans le monde ? C'est qu'il pressent quelque chose dans ta destinée. Si tu retournes dans le monde, c'est pour remplir une tâche imposée par ton Staré. Comprends-le, Alexeï, et non pour te livrer à la vaine agitation et aux œuvres du siècle. » Le père Paisius sortit. Alexeï ne doutait pas que la fin du Staré ne fût proche, bien qu'il pût vivre encore un jour ou deux. Il se jura, malgré les engagements pris envers son père, les dames Koklakov, son frère, Catherine Ivanovna, de ne pas quitter le monastère jusqu'au dernier moment du Staré. Son cœur brûlait d'amour, et il se reprochait amèrement d'avoir pu oublier un instant, là-bas, celui qu'il avait laissé sur son lit de mort et qu'il vénérait par-dessus tout. Il passa dans la chambre à coucher, s'agenouilla, se prosterna devant la couche. Le Staré reposait paisiblement. On entendait à peine sa respiration. Son visage était calme. Retournant dans la chambre voisine où avait eu lieu la réception du matin, Alyosha se contenta de retirer ses bottes et s'étendit sur l'étroit et dur divan de cuir où il avait pris l'habitude de dormir, n'apportant avec lui qu'un oreiller. Depuis longtemps, il avait renoncé au matelas dont parlait son père. Il n'enlevait que son froc, qui lui servait de couverture. Avant de s'endormir, il s'agenouilla et demanda à Dieu, dans une fervente prière, de l'éclairer. Anxieux de retrouver l'apaisement qu'il éprouvait toujours naguère après avoir loué et glorifié Dieu, comme il le faisait ordinairement dans sa prière du soir. La joie qui le pénétrait lui procurait un sommeil léger et tranquille. En priant, il sentit dans sa poche la petite enveloppe rose que lui avait remise la femme de chambre de Catherine Ivanovna quand elle l'avait rattrapée dans la rue. Il en fut troublé, mais n'en acheva pas moins sa prière. puis il décacheta l'enveloppe après quelque hésitation. Elle contenait un billet à son adresse, signé Lise, la fille de Madame Koklakov, qui s'était moquée de lui dans la matinée en présence du staré. « Alexeï Fiodorovitch, je vous écris à l'insu de tous, et de ma mère, et je sais que c'est mal. Mais je ne puis vivre plus longtemps sans vous dire ce qui est né dans mon cœur, et que personne, à part nous deux, ne doit savoir jusqu'à nouvel ordre. On prétend que le papier ne rougit pas. Quelle erreur! Je vous assure que maintenant nous sommes tout rouges l'un et l'autre. Cher Alyosha, je vous aime! Je vous aime depuis mon enfance, depuis Moscou, alors que vous étiez bien différent d'à présent. Je vous ai élu dans mon cœur pour m'unir à vous et achever nos jours ensemble. Bien entendu, c'est à condition que vous quittiez le monastère. Quant à notre âge, nous attendrons autant que la loi l'exige. D'ici là, je me serai rétabli. Je marcherai, je danserai, cela ne fait aucun doute. Vous voyez que j'ai tout calculé. Mais il y a une chose que je ne puis m'imaginer. Que penserez-vous de moi en lisant ces lignes? Je ris, je plaisante, je vous ai fâché tantôt, mais je vous assure qu'avant de prendre la plume, j'ai prié devant l'image de la Vierge et que j'ai presque pleuré. Mon secret est entre vos mains, et quand vous viendrez, demain, je ne sais comment je pourrai vous regarder. Alexeï Fiodorovitch, qu'adviendra-t-il si je ne puis me défendre de rire en vous voyant, comme ce matin? Vous me prendrez pour une moqueuse impitoyable et vous douterez de ma lettre. Aussi je vous supplie, mon chéri, de ne pas me regarder trop en face quand vous viendrez, car il se peut que j'éclate de rire à la vue de votre longue robe. Dès maintenant, mon cœur se glace rien que d'y penser. Portez vos regards, pour commencer, sur maman ou sur la fenêtre. Voilà que je vous ai écrit une lettre d'amour. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Alyosha, ne me méprisez pas. Si j'ai mal agi et que je vous peine, excusez-moi. Maintenant, le sort de ma réputation, peut-être perdu, est entre vos mains. Je pleurerai pour sûr aujourd'hui. Au revoir. Jusqu'à cette terrible entrevue. Lise. Postscriptum. Alyosha, ne manquez pas de venir, n'y manquez pas. Lise. Alyosha lut deux fois cette lettre avec surprise, demeura songeur, puis rit doucement de plaisir. Il tressaillit. Ce rire lui paraissait coupable. Mais, au bout d'un instant, il eut le même rire heureux. Il remit la lettre dans l'enveloppe, fit un signe de croix et se coucha. Son âme avait retrouvé le calme. Seigneur, pardonne-leur à tous. Protège ces malheureux et ces agités. Guide-les. Maintiens-les dans la bonne voie. Toi qui es l'amour, accorde-leur à tous la joie. Et Alyosha s'endormit d'un sommeil paisible.